VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel, nous sommes ensemble pour 10 minutes d'information. Bonjour à tous. La situation au Burundi continue de se détériorer avec des actes de violence au quotidien et l'impasse entre le gouvernement et les partis d'opposition. Aimé Maguera, le porte-parole d'Agathon Rwasa, leader des Forces nationales de libération, les FNL, réitère l'appel au dialogue lancé par l'opposition au président Pierre Nkurunziza.
Nkurunziza n'est pas légal parce que la constitution est claire, la Côte d'Arusha est claire. Il ne devait pas faire un troisième mandat. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, il doit mesurer les conséquences. Il doit assumer ce qui va arriver. Bon, maintenant, nous avons des informations fiables et sûres que M. Rwasa est ciblé par de tous les côtés. Donc, si une situation arrive, je crois que Nkurunziza va répondre. Alors, une transition sans ou avec, mais il faut qu'il accepte au moins une discussion. Il faut que nous soyons réalistes. Nkurunziza, il est président, mais il n'est pas président légal. C'est un président qui a violé la Constitution. C'est un président qui ne répond plus aux aspirations des accords d'Arusha.
Aimé Maguera, porte-parole de l'opposant burundais Agathon Rwasa. Le président rwandais Paul Kagame a reproché dimanche à Kigali à la communauté internationale de s'immiscer dans les affaires rwandaises. Le Parlement rwandais a adopté le 17 novembre un projet de révision constitutionnelle qui doit encore être ratifié par référendum et qui va autoriser Paul Kagame à se représenter en 2017. Washington a déjà appelé M. Kagame à quitter le pouvoir à la fin de son mandat en 2017. L'Union européenne, elle, a estimé que cette réforme menée dans l'intérêt d'un seul individu perd en crédibilité. En République centrafricaine, réaction du gouvernement de transition à la déclaration du chef du FPRC, Noureddine Adam. La semaine dernière, l'ex numéro 2 de la coalition Séléka avait indiqué qu'il n'y aurait pas d'élection dans les localités du nord du pays sous son contrôle. Hier dimanche, le porte-parole du gouvernement a qualifié ses propos de déclaration de guerre au peuple centrafricain. À Bangui, retrouvons Freeman Sipila, notre correspondant.
Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Pagindi, n'est pas passé par quatre chemins pour rendre Noureddine Adam responsable des souffrances du peuple centrafricain. Pour le gouvernement, le chef du Front populaire pour la restauration du Centrafrique, FPRC, branche de l'ex-Séléka, veut rappeler son vieux projet de partition du pays avec la création de sa république, dite République du Logon. Selon le porte-parole du gouvernement, Noureddine Adam se déclare l'ennemi public numéro un de l'unité, de la paix et de la réconciliation nationale, valeur pour lesquelles le pape François a plaidé lors de sa visite à Bangui. Il demande de ce fait à la communauté internationale d'appuyer les forces de défense et de sécurité intérieure en vue de mettre fin aux agitations de Noureddine Adam. La semaine dernière, l'ex numéro 2 de la coalition Séléka a clairement indiqué sur les ondes d'une radio nationale que les élections n'étaient pas possibles dans les zones sous son contrôle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un projet d'accord politique pour sortir la Libye du chaos a été annoncé hier par les représentants des deux autorités rivales, Idriss Fall.
Ce texte a été négocié dans le plus grand secret au cours d'une réunion en Tunisie sans la participation de l'ONU. Selon l'AFP, les délégués se sont mis d'accord pour la formation d'un comité paritaire de 10 membres qui devra choisir un premier ministre et deux vice-premiers ministres d'ici 2 semaines. Un autre comité de 10 membres sera chargé d'amender la constitution de 1963. C'est la première fois que des représentants des factions rivales se rencontrent sans médiation extérieure. Les deux parlements, celui de Tripoli et celui de Tobrouk, devront entériner ce projet, ce qui n'est pas gagné d'avance. De son côté, Martin Kobler, nouvel émissaire de l'ONU en Libye, a souligné que seul le projet d'accord négocié au Maroc début octobre était capable de mettre fin au conflit. Ce texte prévoyait déjà un gouvernement d'union nationale, mais avait été rejeté par les deux parlements. Une conférence internationale sur la Libye doit avoir lieu le 13 décembre. Le pays vit dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 et depuis un an, deux partis rivales se disputent le pouvoir, ce qui a aussi permis au groupe État islamique de gagner du terrain en Libye.
Sécurité au Mali, les États-Unis et le Mali ont signé un accord. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la gouvernance sécurité. La SGI, annoncée en août 2014 par le président américain Barack Obama. On écoute le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, Tiema Hubert Koulibaly.
savez que nous sommes dans le cadre d'une LOPM, la loi d'orientation et de programmation militaire. Et cette LOPM a besoin d'un soutien technique pour que la planification de l'emploi des ressources puisse être faite de manière efficace. Donc c'est cet appui-là que les États-Unis d'Amérique entendent nous apporter.
Le ministre de la Défense du Mali lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Le gouvernement fait un pas en avant et trois en arrière. C'est en tout cas l'avis de Bala Touré, un membre du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, actuellement en visite aux États-Unis sur invitation du département d'État. Il dénonce la duplicité des autorités mauritaniennes sur la question de l'esclavage.
Quand de loin on observe la Mauritanie, on voit que c'est un pays, ce sont des autorités qui s'attellent à prendre des mesures pour éradiquer totalement l'esclavage. La loi de 2007 criminalisant l'esclavage a été réaménagée et les peines désormais qui sont encourues pour les esclavagistes sont devenues plus sévères. Il y a eu aussi l'institution d'une cour spéciale de justice qui s'occupera des crimes d'esclavage. Il y a eu l'agence Tadamoun, qui est une agence chargée de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Mais parallèlement à tout cela, au lieu que les présumés esclavagistes se retrouvent devant la justice, ce sont les défenseurs des droits de l'homme, les militants d'Ira Mauritanie, leur président, leur vice-président, qui se retrouvent devant les policiers, devant les juges et qui encourent des peines de prison. Donc on se demanderait alors pourquoi tous ces aménagements au niveau étatique. Nous pensons, et les observateurs sont d'accord avec nous, qu'il s'agit juste d'opérations de charme à l'adresse de la communauté internationale qui demande plus de rigueur à la Mauritanie.
Bala Touré du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, actuellement en visite aux États-Unis. Au Burkina Faso, le tribunal militaire a inculpé le général Gilbert Diendéré de complicité dans l'assassinat en 1987 de l'ancien leader révolutionnaire Thomas Sankara, a annoncé hier le directeur du tribunal. Le général Diendéré fait déjà face à des accusations et entrait à la tentative de coup d'État perpétrée contre le gouvernement de transition en septembre dernier. Un membre de la famille Sankara, Mosbila Sankara, a déclaré que l'accusation avait été portée contre le général la semaine dernière, mais n'avait pas encore été rendue publique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Aux États-Unis, Barack Obama s'est engagé à traquer partout les terroristes, partout où ils se trouvent en tout cas. C'était lors d'une allocution solennelle à la Maison-Blanche. Anne Albertson.
Pour le président Obama, il n'y a pour l'instant aucune indication que les tueurs aient été dirigés par un groupe terroriste depuis l'étranger. Mais il est clair, ajoute-t-il, que ces deux personnes avaient suivi la voie délétère de la radicalisation. Monsieur Obama a appelé notamment les groupes de technologie à rejoindre la lutte contre l'État islamique à la propagande très active sur les réseaux sociaux. Nous allons détruire le groupe État islamique et toute autre organisation qui chercherait à nous nuire, a assuré le président Obama, qui a appelé les musulmans à lutter contre les idéologies extrémistes. Les États-Unis ne se laisseront pas entraîner dans une guerre terrestre en Irak et en Syrie, a-t-il dit aussi. Une coalition dirigée par les Américains mène une campagne de frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak depuis plus d'un an. Le président américain a enfin appelé le Congrès à légiférer pour renforcer le contrôle des armes individuelles, les tueurs de San Bernardino ayant facilement et légalement pu se constituer un véritable arsenal.
Et en France, le parti d'extrême droite Front National FN est arrivé dimanche largement en tête lors d'élections régionales dans le pays. Premier scrutin en France depuis les attentats djihadistes meurtriers du 13 novembre. Le FN a obtenu au premier tour un score national record de 28% de voix et s'est revendiqué premier parti de France, devançant l'opposition de droite avec 27% et les socialistes du président François Hollande qui recueillent 23,5%. Selon les dernières estimations du ministère de l'Intérieur. Un deuxième tour est prévu le 13 décembre. Ces régionales constituent le dernier test électoral avant la présidentielle de 2017. Et au Venezuela, pour terminer, l'opposition a remporté la majorité parlementaire pour la première fois en 16 ans au terme d'un scrutin marqué par l'exaspération populaire face à la crise économique. Le président Nicolas Maduro a reconnu la défaite de son parti. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bonne journée et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.